Et le journal de la mi-journée, c'est avec Eda Lotindiko. Eda, bonjour.
Bonjour Nina Verdian Niabodé, bonjour à tous. Le marché de combattants à la une de ce journal. Calvaire pour commerçants et clients après la pluie. Reportage à suivre. À Bangui, le marché noir émerge face à la pénurie du carburant. Si cette vente permet de minimiser l'ampleur de la crise, le stockage d'hydrocarbures dans les quartiers présente des risques d'incendie selon des spécialistes. Après la prolongation de l'âge de la retraite de 60 à 65 ans, une quarantaine d'enseignants du supérieur sont admis à la retraite. Elle sera effective d'ici fin décembre. Basketball, encore quelques heures, Bangui Sporting Club va affronter Espoir Basket du Gabon, préliminaire de la Basketball Africa League.
Ouvrons ce journal, Eda, au marché de combattants dans le 8e arrondissement de Bangui. Dans quel état vendent les commerçants?
Après la pluie, l'accès au marché est difficile. L'environnement devient désagréable selon les usagers. Le marché de combattants après la pluie, c'est un reportage de Prudence Gisèle Huguet.
Des ruelles du marché sont transformées en canaux d'irrigation. Obligés, clients et commerçants marchent dans l'eau boueuse qui coule lentement. Olivia craint pour sa santé, mais elle n'a pas le choix.
Quand il pleut, les déchets emportés par les eaux sont déposés dans les marchés et on est obligé de nous installer. Les maladies ne manquent pas. Quand il n'y a pas d'issue, on est obligé de traverser.
De la boue et des déchets, l'odeur de l'environnement est désagréable. Ayo est perché sur une chaise élevée derrière ses marchandises.
On ne fait que patauger. Nous sommes exposés aux maladies. Le staphylocoque nous ronge. J'ai amené cette chaise de chez moi pour éviter la boue. Je demande au gouvernement de nous réhabiliter le marché, nous construire les tables en béton et faire le remblai du marché en latéral.
Ségolène, commerçante, est triste et se plaint de la mévente après cette pluie.
Les gens ne veulent pas entrer dans le marché. La pluie de ce matin empêche les clients de venir acheter. Nous sommes dans la souffrance. La boue et les saletés ne nous permettent pas de bien vendre nos marchandises.
Martemas est venu faire des achats pour sa famille. Il demande au service d'hygiène de prendre ses responsabilités.
De l'eau qui coule. Vraiment, on a besoin des services d'hygiène qui peut prendre notre soin de notre marché. Les marchandises, les légumes même, il y a beaucoup de saletés qui étaient sur marchandises, ce n'est pas bon.
L'ambiance au marché combattant est calme. Très peu des commerçants sont venus au marché par crainte de l'état de l'environnement après la pluie de ce matin. Les commerçants du marché combattant demandent la reconstruction de leur lieu de vente.
On reste toujours dans les marchés. La pénurie du carburant s'accentue en République centrafricaine et la vente illicite des hydrocarbures monte en puissance.
Les vendeurs et ceux qui habitent les alentours des lieux de stockage sont exposés au risque d'incendie. Plusieurs cas d'incendie sont déjà signalés à Bangui. Un danger selon des spécialistes en sécurité incendie. Reportage de Astrid de Bonheur Kolingue qui a sillonné quelques points de vente.
Au PK5, des points de vente de carburant inondent le secteur. Tout le monde s'adonne à cette activité, bien que conscient du danger auquel l'on s'expose. Mahamad est père d'une grande famille. À la maison, il vend de l'essence. Devant son portail, il remplit des bidons avec du carburant qu'il siphonne des fûts. Des conducteurs, clients viennent s'en approvisionner. Abakar se dit conscient des risques, mais selon lui, il aide son pays.
Ce que nous faisons présente beaucoup de risques parce que nous ne sommes pas protégés. Mais c'est une manière pour nous d'aider ce pays. Les stations-service sont fermées. Si ce n'était pas grâce à nous, nous qui vendons du carburant au bord des routes, les gens allaient manifester. Nous faisons ceci pour aider l'État, le temps qu'ils parviennent à fournir du carburant aux stations-service. Il y a des incendies, nous le savons, mais on ne peut pas laisser ce qu'on fait. Nous évitons de mettre ces carburants dans les rayons de feu. C'est à l'État de chercher à nous donner des équipements pour contenir d'éventuels incendies.
En attendant, local le mot précaution.
De même que Abakar, Arnold est un jeune à Gobongo dans le 4e arrondissement de Bangui. Vendeur de carburant depuis 2 ans, il se ravitaille depuis Yaloké.
Nous rencontrons des difficultés en route. Nous payons des taxes, la douane. Pour un fût, on paye la douane à 10 000 francs. Le fût de carburant s'achète à 220 000 francs. On réalise juste de petits bénéfices pour subvenir à nos besoins. Il y a du danger, mais on place ces carburants hors de la portée et de la vue des autres.
Les points de vente de carburant se multiplient. Le chef du quartier Gobongo, Étienne Oumba, appelle à une prise de conscience.
Comme nous sommes dans un état d'urgence, ça veut dire que ça nous rend de service. Mais si ça devient un obstacle, c'est pas normal. Mais malheureusement, les 90% des maisons qui vendent présentement les carburants dans mon localité, c'est des personnes en location. Et c'est très dangereux.
Boris Gondamounien est un expert en sécurité et prévention d'incendie. Il appelle à la responsabilité générale.
On ne peut pas stocker du carburant chez soi, c'est comme le gaz. Pourquoi ? Parce que quand il y a un incendie, il y a ce qu'on appelle le pouvoir calorifique. Donc ça veut dire quoi ? C'est la quantité de la chaleur qui est dégagée lors de la combustion de cette même masse qui brûle. Le carburant, s'il brûle, il va faire des dégâts. Et le feu, quand il y a un incendie, l'incendie ne reste jamais sur place. Il y a une propagation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des dégâts collatéraux.
Aujourd'hui, avec la crise du carburant, hommes, femmes et enfants sont pleins dans la vente informelle en stockant des hydrocarbures à domicile.
Parlons Eda du taux d'accident de circulation qui inquiète à Bangui alors qu'il n'y a qu'un seul service de prise en charge.
Le service de traumatologie à l'hôpital communautaire de Bangui accueille plus de 1000 malades en moyenne par mois. Le personnel et les équipements de travail sont cependant limités. Inquiétude du côté des patients, dépassement du côté du personnel soignant. Reine Fabienne de Chiga s'est intéressée à ce dossier.
À l'entrée du service de la traumatologie, plus de 100 personnes sont dans la queue. Seulement moins d'une dizaine de patients sont assis sur un banc. Les parents des malades perdent patience.
En tout cas, Betty a son gang ou baron.
C'est depuis le matin que nous sommes dans le rang. Il n'y a rien pour s'asseoir. Imaginez-vous, un accidenté qui est debout pendant longtemps. C'est déplorable. Le gouvernement doit vite réagir.
Mon enfant a eu une fracture à la jambe. Je suis triste. Il est obligé d'attendre longtemps. Cela peut créer encore des complications.
Professeur Jean de Dieu Bertrand Tekba est le chef de service de la traumatologie. Pour lui, le taux élevé des accidents fait que le service est submergé et ne peut prendre en charge tous les patients à la fois.
On a 30 de dossiers que chaque matin on présente. On est autour de 700, 800 ou 1000 malades selon les mois de l'année. C'est des traumatismes de tout genre.
En plus d'être submergée, la traumatologie est confrontée au manque de moyens. Selon professeur Tekba, cela fait 11 ans que le service n'a pas reçu d'aide du gouvernement.
C'est compliqué. On est obligé de gérer ça de manière informelle.
Et vous recevez aussi l'aide du gouvernement dans ce sens ?
Jamais.
Vous avez tenté de demander ?
Une fois. C'est depuis 11 ans qu'on a toujours demandé. Mais ça ne vient jamais. En République centrafricaine, présentement, on a un seul chirurgien orthopédiste que je suis. Aussi, on a déjà envoyé des jeunes confrères aussi à l'extérieur. Ils sont 3. Mais c'est les garçons motivés qui sont partis de leurs propres frères.
Information confirmée par Abel Assaï, directeur de l'hôpital communautaire de Bangui.
Les équipements, nous n'en avons pas assez. Il y a beaucoup d'accidentés maintenant de taxi-moto. Quand ils arrivent ici, il y a un souci. Le Centrafricain n'a pas l'argent pour payer les implants qui coûtent 150 000, 100 000. Si l'État peut subventionner, ça va beaucoup soulager parce que c'est le seul centre. Mais il est dépourvu, il n'a pas assez de moyens.
Devant un service qui ne peut pas répondre à toutes les attentes, la prudence doit être de mise et la circulation régulée. Professeur Jean de Dieu Bertrand Tekba.
Pour l'arrêter, c'est très simple à faire. Les surcharges qu'ils font sur les routes de l'intérieur du pays, ça passe sous la barbe des gens qui devaient les arrêter et ils ne les arrêtent pas. Ça fait très mal.
En 2021, le service de traumatologie de l'hôpital communautaire de Bangui a reçu près de 5000 patients. Les chiffres pourraient encore augmenter cette année selon les spécialistes de santé.
Nouvel âge de retraite pour les enseignants du supérieur.
Au lieu de 60, ils partiront désormais à la retraite à 65 ans. C'est l'essentiel du décret signé le 3 octobre par le président de la République. Faustin Archange toi dira. La mesure concerne les professeurs maîtres de conférences, maîtres assistants et assistants. Cependant, la retraite est fixée à 62 ans pour le corps auxiliaire de l'enseignement. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur, SINAES, apprécie cet acte. Edio Depalem, secrétaire général du SINAES, avec Chris Jordan Badengbi.
Il vous souviendra que depuis avant ce décret, il y avait un vide juridique autour de la limite d'âge de départ à la retraite des enseignants. Vous conviendrez avec moi que les enseignants du supérieur n'étaient pas admis à la retraite. Ceux qui étaient indûment admis à la retraite ont fait des recours au tribunal administratif pour être réhabilités et c'est comme cela qu'ils travaillent. Vous allez comprendre que depuis avant le dernier décret pris pour fixer la limite d'âge de départ à la retraite des enseignants du supérieur, il y a beaucoup d'enseignants dont l'âge a dépassé la limite, raison pour laquelle ce décret vient vient maintenant normaliser le plan de carrière des enseignants du supérieur. C'est une satisfaction, mais en partie parce que le décret ne répond pas à nos revendications de départ.
Et justement, après ce décret, une quarantaine d'enseignants du supérieur sont admis à la retraite. Cette retraite est effective à partir du 31 décembre prochain, alors qu'ils sont donc ces enseignants Armando Yanguinji.
L'arrêté signé du ministre de la fonction publique, Marcel Dimassé, ce 10 octobre, précise à son article premier que cette décision est en application des dispositions du décret pris le 3 du même mois en cours par le président Faustin Cantouadéra. Parmi les 40 enseignants du supérieur admis à la retraite, 28 sont les professeurs et 12 maîtres de conférences et maîtres assistants. Parmi les professeurs, des personnalités comme Daniel Darlan, président de la Cour constitutionnelle, professeur de droit international, Simplice Mathis Randi, professeur de géographie et actuel président de l'Assemblée nationale, ou encore Gabriel Danzy, professeur de lettres modernes, ancien directeur de cabinet à l'Assemblée nationale. Au moment où le gouvernement met à la retraite ses professeurs, l'unique université publique de Centrafrique fait face au manque criant d'enseignants. Selon des observateurs sociaux, l'intégration des nouveaux enseignants du supérieur, la dotation de l'école doctorale par des moyens adéquats pour l'encadrement des jeunes enseignants s'avère prioritaire. Pour le moment, ni le ministère de l'enseignement supérieur, ni le gouvernement centrafricain n'a encore fourni des détails soutenant cet arrêté qui a mis à la retraite ces fonctionnaires de l'enseignement supérieur. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur, lui, s'interroge sur les mesures d'accompagnement de ces retraités.
Actualité africaine en bref et date, des inondations au Soudan du Sud ont fait près d'un million de sinistrés.
Ces inondations ont tué des bétails, détruit des plantations de maisons, des écoles, des ponts, des routes et des infrastructures de santé emportées. Les fortes pluies ont aussi submergé des forages et des latrines, contaminant ainsi des sources. Plus de 900 000 personnes sont touchées par les inondations qui frappent le Soudan du Sud, selon une estimation publiée hier par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies.
Et puis, difficiles conditions des déplacés des conflits intercommunautaires en République démocratique du Congo.
Dans l'ouest de la République démocratique du Congo, le conflit qui oppose Dopoujon et les communautés Teke et Yaka fait plus de 180 morts selon le gouvernement. Le calme est revenu dans plusieurs localités de Mendobé et Kwioulou, mais la situation humanitaire reste catastrophique. Des villages sont vidés de leur population et les déplacés vivent dans des conditions très précaires. La page sport, c'est avec vous, Claire Assambadinga. Claire, bonjour.
Bonjour à vous, Edalo Tindiko. Bonjour à tous.
Basketball préliminaire de la Basketball Africa League. Bangui Sporting Club affronte Espoir Basket Club du Gabon à 17h au Palais des Sports de Yaoundé au Cameroun.
Oui, Eda, quelle est donc la chance de la République centrafricaine dans cette compétition? Suivant à cet effet, Alpha Mané, entraîneur de Bangui Sporting Club que nous avons joint ce matin depuis Yaoundé au Cameroun.
Nous avons assez de chance, étant donné que nous avons assez de joueurs d'expérience en face d'une équipe du Gabon qui nous a ramené quand même une équipe, je dirais, compétitive, mais assez jeune. Nous avons assez de chance, on va s'appuyer sur l'expérience de nos joueurs pour pouvoir aborder ce match. C'est une compétition internationale, donc rien n'est à négliger. Pour pouvoir vraiment venir à bout de cette équipe, il va falloir aborder ce match de façon sérieuse, respecter l'adversaire et surtout respecter les consignes. Avec le forfait de l'AS Vita de la RDC, ça nous laisse une opportunité, certes. Rien n'est toujours négligé, c'est une opportunité bien sûr, mais il va falloir la chercher et aller l'attraper. L'absence de l'AS Vita ne nous dit pas forcément qu'on est qualifié. Alors il faut aller jouer tous ces deux matchs qu'on aura et surtout pour pouvoir avoir une certaine confiance par rapport au prochain tour. Si jamais on gagne les deux matchs, il faut les gagner.
C'était Alpha Mané, entraîneur de Bangui Sporting Club. Mais bien avant cette rencontre, tout à l'heure à 14h, CNSS de la Côte d'Ivoire va affronter Université de Douala. Aux dernières nouvelles, Eda, le club AS Vita de la RDC n'est pas présent et sera déclaré forfait. Le club Tempo Basket du Tchad également ne sera pas de la partie. À la deuxième journée demain, à 14h, deux clubs du Cameroun vont s'affronter, Université de Douala et Overdose. À 17h, Nueva Era Basketball de la Guinée équatorial Club va se mesurer avec Bangui Sporting Club. Enfin, vendredi à 14h, Overdo du Cameroun affronte CNSS de la Côte d'Ivoire. À 17h, Espoir Basket du Gabon croise Nueva Era Basketball Club de la Guinée équatoriale.
Football à l'international, des matchs de la quatrième journée de la Ligue européenne des champions se poursuivent aujourd'hui.
Oui, et dans ce soir, Barcelone affronte Inter Milan, Bayern Munich joue contre Victoria Pilsen, Atlético Madrid s'oppose à Club Brugge, Liverpool se mesure avec avec Rangers hier, Copenhague et Manchester City ont fait match nul, 0-0. Maccabi Haïfa a battu Juventus de Turin 2-0. Shakhtar Donetsk et Real Madrid se sont séparés sur un score de parité 1-0. Chelsea a battu Milan AC 2-0. Paris Saint-Germain et Benfica ont fait match nul 1-0. Même score du côté de Dynamo Zagreb et RB Salzbourg. Et enfin, Celtic s'est incliné face à RB Leipzig 2-0. Manchester City et Real Madrid sont qualifiés pour les huitièmes de finale.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir écouté. Tout de suite la version en sango.